Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce forum Espace Femmes que vous suivez à travers nos 47 radios partenaires partout au Niger. Les changements climatiques sont une menace majeure pour les communautés plutôt du Niger où les moyens de subsistance de plus de 80% de la population dépendent de l'agriculture. Par exemple, dans la région de Maradi, les femmes jouent traditionnellement un rôle central dans les activités agricoles et la production alimentaire à l'échelle locale. Dans le reste du pays, des inégalités systématiques entre les hommes et les femmes sont omnipotentes dans le secteur agricole de la région de Maradi. En effet, les agricultrices rencontrent davantage des difficultés pour accéder aux technologies agricoles, aux services financiers ainsi qu'à la propriété foncière. Alors, quelle est la place de la femme dans l'agriculture nigérienne? Les défis et les perspectives est le thème choisi pour le forum de ce mardi. Le Niger possède le taux de natalité le plus élevé au monde et répondre aux besoins alimentaires de cette population en croissance rapide représente un défi de taille en raison des sécheresses fréquentes aggravées par les changements climatiques, des manques de terres arables et d'un accès limité à l'eau. Environ 80% du territoire de ce pays se retrouve dans le désert du Sahara. La majorité des 23 millions de Nigériens vit ainsi dans les régions du sud et de l'ouest propices à l'agriculture, selon onops.com. L'économie et la population du Niger sont fortement dépendantes des activités agricoles, notamment d'activités pastorales et de cultures de subsistance comme celle du maïs et du sorgho. Le réchauffement climatique accentue les difficultés que rencontre le pays, faisant peser une menace permanente sur la sécurité alimentaire, le développement durable et la croissance économique. Il est donc indispensable de surmonter ces défis pour renforcer l'autonomisation des femmes, augmenter la production alimentaire et améliorer la résilience des communautés. Comment améliorer le niveau de production des femmes? Quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes agricultrices? Quels sont les appuis qu'elles reçoivent des partenaires et le ministère de tutelle? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous recevons dans ce studio Madame Hima Fatoumata, présidente du PFPN, plateforme paysanne du Niger. Nous avons en ligne Madame Pauline Draman, vice-présidente de la Chambre régionale de l'agriculture et directrice de Compost Niger. Et je suis Samira Rafi pour la modération de ce forum. Bienvenue à vous, chers invités. L'agriculture représente près de 40% du produit intérieur brut du Niger et plus de 80% de la population vit en milieu rural. Selon les estimations, une personne sur cinq ne parvient pas à satisfaire ses besoins alimentaires. Alors, Madame Pauline, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Oui, je suis là.
Dites-nous, comment est-ce qu'on explique cela?
Bonjour.
Bonjour.
Et merci encore pour votre invitation. Je m'en vais aujourd'hui, je voudrais vraiment vous féliciter pour le sujet que vous avez choisi, à savoir la place de la femme dans l'agriculture nigérienne. Quand on essaie vraiment de voir par rapport aux statistiques que vous venez de dire, les 40% d'IV et puis les 90% de la population nigérienne qui sont vraiment impliqués dans l'agriculture. Vous voyez, quand on essaie de voir, le sujet là est très, très, comment dire, c'est d'actualité. Au Niger, nous souffrons beaucoup des difficultés que tout le monde connaît, à savoir la sécheresse, à savoir nos terres qui sont complètement lessivées et à savoir aussi tout ce qui est la faiblesse de notre technologie vraiment agricole. Donc c'est pour cela, tout cela, et souvent vous avez aussi, bon, j'ai parlé de la sécheresse, mais les pluies et tout cela qui font que malgré que cette population de 90% soit vraiment impliquée dans l'agriculture, nous n'arrivons pas jusqu'à présent à satisfaire nos besoins. Et cela nous interpelle tous. Moi, j'aime bien le dire. Quand on essaie vraiment de faire le tour, la pluie, on en a. Mais souvent, on n'arrive pas vraiment à exploiter cela comme ça se doit. Je m'explique. Regardez les maisons qui tombent. C'est la pluie.
Exact.
Quand vous voyez vraiment la pluviométrie aujourd'hui, même ici à Niani, vous voyez, c'est beaucoup. Mais avec tout cela, vous allez voir qu'on n'arrivera même pas à satisfaire nos besoins. L'eau qui coule, l'eau qui tombe et qui coule, souvent n'est pas récupérée. L'eau coule et puis ça s'en va ou ça se dessèche. Mais on n'arrive pas à accumuler, à récupérer tout cela pour l'exploiter autrement au profit de l'abus. Nos terres, tout à l'heure, je disais qu'ils sont complètement lessivées. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand on parle de l'amendement des sols, la fertilisation des sols, la première chose qui nous arrive, c'est l'engrais chimique. Alors, tout le monde sait que l'engrais chimique et les terres lessivées ne vont pas ensemble.
Mm.
Au contraire, il faut nécessairement le compost, il faut nécessairement les fertilisateurs organiques pour pouvoir amender nos sols. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cela. Donc, tout cela vraiment nous interpelle d'une manière ou d'une autre. Vous avez parlé de la femme. Certes, les femmes sont nombreuses à s'impliquer. Mais elles s'impliquent comment? Souvent, tout repose sur elles. Quand vous voyez, c'est elle qui se lève le matin, c'est elle qui fait tout, le repas, tout. Et en plus de cela, elle va au champ pour cultiver avec les hommes et autres.
Mm-hmm.
Regardez, avec tout cela, souvent, elles ne sont même pas considérées. Et leur main-d'œuvre n'est même pas considérée. Là aussi, je veux revenir dessus.
Mm-hmm.
Pour vous dire, les terres qu'elles cultivent souvent même ne les appartiennent pas.
Mm-hmm.
Les terres sont à quelqu'un d'autre, elles sont en train de... Et souvent, quand elles commencent à amender cela, quand les terres deviennent fertiles, c'est en ce moment où on dit, ah, donne-moi ma terre.
Mm-hmm.
Donc, elles restent là. Donc, pour vous dire que, même si elles ont cette bonne volonté, même si elles représentent la grande majorité de la main-d'œuvre, souvent, c'est des conditions vraiment très, très difficiles.
Mmh.
Donc, c'est pour ça que je me dis que nous sommes tous à interpeller. Et c'est pour ça qu'au niveau de certains grands projets, on est en train de voir comment faire de sorte que les terres-là appartiennent aux femmes. Comment vraiment faire de sorte que, une sorte de garde-fou pour dire que ces terres leur appartiennent et c'est à elles de les cultiver. Et c'est pour elles. On doit tout faire pour que les terres-là vraiment restent vraiment propriétaires des femmes.
Alors, malgré que ces terres n'appartiennent pas aux femmes, au niveau de la Chambre régionale de l'agriculture, quelles sont les actions que vous menez pour assister ces femmes dans leur production?
Il faudrait vraiment que ces terres appartiennent aux femmes. Et pour cela, vous savez, il faudrait attaquer cela à la source.
Mmh,
mmh. Quand on essaie de voir les femmes même. Quand on fait la tradition de l'héritage, les femmes souvent n'ont pas de terre en tant que telle.
Mm-hmm.
C'est pour leurs frères ou autres.
Mm-hmm.
Donc maintenant, vous voyez, il faudrait revoir tous ces textes juridiques pour qu'on puisse dire vraiment que les terres sont vraiment aux femmes.
Mm-hmm.
Donc c'est vraiment, comme on dit, un travail vraiment de longue haleine. Et nous sommes dessus, avec tous nos partenaires, avec les autorités impliquées, pour voir comment les femmes vont vraiment avoir leur terre à elles. Nous sommes dessus, madame.
D'accord, merci, madame Pauline. Je reviens vers vous, madame Rima Fatoumata. Vous êtes la présidente du Collège des femmes au sein de la plateforme paysanne. Parlez-nous un peu de cette plateforme et comment est-ce que vous intervenez.
Merci, je vous remercie de nous avoir invités et de nous donner la parole aujourd'hui, ce matin. Donc, je suis la présidente du Collège des femmes, qui est une structure au sein de la plateforme paysanne. La plateforme paysanne regroupe 13 structures paysannes. Et donc, au sein de ces 13 structures, il y a une chambre.
Mm-hmm.
Qu'on appelle le Collège des femmes. Chaque structure délègue deux femmes mm-hmm. au sein de sa structure et les deux femmes forment le collège,
mm-hmm.
le bureau du collège. Et toutes les femmes qui sont dans la structure au niveau des bases,
mm-hmm.
font partie aussi du collège.
Mm-hmm.
Donc le collège regroupe toutes les sensibilités et des femmes paysannes. Nous avons des femmes agricultrices, des femmes maraîchères, des femmes pêcheuses du domaine de la pêche, des femmes transformatrices, et puis il y a toutes les sensibilités au sein de ce collège, parce que le collège reflète les structures qui sont membres de la plateforme paysanne.
Et quelles sont les structures et votre niveau, où est-ce que vous intervenez, comment est-ce que vous le faites?
Donc, nous intervenons au niveau, surtout, nous défendons toujours les droits des femmes, mm-hmm. le droit de la femme paysanne,
mm-hmm.
partout où elle se trouve. Donc, nous intervenons partout, à Niamey, parce que la plateforme, elle est structurée, elle a des structures au niveau régional et au niveau départemental.
Mm-hmm.
Et toutes ces structures, toutes les femmes membres de ces structures font partie du Collège des femmes. Donc, nous avons des démembrements partout dans le pays.
Alors, comment améliorer, selon vous, le niveau de production des femmes?
Pour améliorer le niveau de production des femmes, premièrement, il y a le renforcement de capacité. Il y a ce renforcement de capacité et il faut mettre les moyens au niveau des femmes. Et comme l'a dit Pauline, vous savez que les outils de travail, les femmes ne sont pas à la portée des femmes, surtout les outils modernes de travail, par exemple les charrues, ainsi de suite, quoi. Donc les femmes, elles travaillent toujours d'une manière archaïque. Donc tous ces moyens-là leur manquent, par exemple aussi les moyens d'arrosage moderne. Les femmes ont besoin de tout ça. Là, vous savez que les femmes excellent surtout dans le maraîchage, beaucoup dans le maraîchage. Et vous avez vu comment les femmes, elles creusent des petits puits et elles arrosent avec vraiment des moyens de bord, avec des petites calebasses, avec des petits bidons. Vous voyez, donc ce qui fait qu'elles ne peuvent pas travailler une grande superficie de terre. Donc parce que le système d'arrosage est très pénible. Parfois, elles sont obligées de prendre de la main d'œuvre pour les aider, et alors qu'elles n'ont pas les moyens de tout ça là. Donc vous voyez, donc les femmes, elles ont besoin de beaucoup d'appui. De beaucoup d'avis dans le domaine de la formation, dans le domaine et de la technique même.
Merci, Madame Fatouma. Pauline, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Dites-nous, selon vous, quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes? Quelles sont les plaintes que vous recevez souvent au niveau de votre structure?
Je pense que Madame vient d'en parler, parce que la plupart des femmes n'ont pas les moyens. Ça, vraiment, il faudrait le dire. Quand je dis les moyens, aujourd'hui, tous ceux qui ont vraiment des terres ont cette capacité d'aller vers les banques pour vraiment se procurer vraiment des moyens nécessaires et pouvoir vraiment exploiter leurs terres. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les femmes ont besoin des tracteurs, des charrues, parce que comme on le dit, elle vient de le dire, et je vais revenir dessus. Elles sont en train, c'est une main d'œuvre vraiment encore très archaïque, avec la main. Aujourd'hui, avec la main, qu'est-ce qu'on peut faire avec la main? Avec une technologie vraiment avancée, les femmes peuvent vraiment exceller, elles peuvent faire beaucoup de choses. Et l'autre point, le renforcement des capacités, dans lequel nous vraiment nous sommes. Parce que dans nos structures au niveau de la CRA, la Chambre de l'agriculture régionale de Niamey, nous sommes vraiment en train de former des femmes à tous ces niveaux-là. Que ce soit pour les produits phytosanitaires, parce que souvent c'est cela aussi. Les femmes, elles font des exploitations, mais après, tu vas voir les ennemis de culture vont venir, ils vont tout détruire. Elles ont vraiment investi et voilà où elles s'en retrouvent. Tout à l'heure, madame a parlé aussi des moyens d'arrosage. C'est-à-dire, ce sont vraiment ces plaintes en général que nous recevons. Et le gros des problèmes des femmes, comme je viens de le dire, c'est le problème des terres qui ne leur appartiennent pas. Tout à l'heure, je n'ai pas entendu madame en parler. Mais je suis sûre qu'elle doit aussi en dire un mot. Parce que les femmes, les terres sur lesquelles elles sont, ce n'est pas pour elles. Pour la grande majorité. Donc quelque chose qui ne t'appartient pas. Ou du jour au lendemain, on peut te dire, et quitte ce terrain-là ou bien tu me rends mon terrain. Là, c'est vraiment un problème. Les femmes vraiment sont vraiment très, c'est-à-dire c'est vraiment un aussi de leurs gros problèmes.
Merci. Merci beaucoup, Madame Pauline. On va continuer en écoutant maintenant ce témoignage de quelques personnes qui donnent leur avis sur les femmes agricultrices. Et on revient juste après au studio.
Dieu merci, on gagne beaucoup dans les travaux champêtres. Je cultive l'arachide. Quand c'est prêt, après la récolte, je vends une partie. On consomme une partie. Dedans, je paie la scolarité de mes enfants. J'assiste aussi mes parents. Je fais mes petites dépenses. Aujourd'hui, si la femme gagne, elle peut soulager son mari dans certaines charges familiales.
Aider mon mari dans la prise en charge de notre foyer est la raison qui m'a poussée à cultiver. Par exemple, prendre une partie de la charge de mes enfants. Moi, je cultive du haricot. Je vends une partie et on consomme une partie. Je paye la scolarité de mes enfants. Je leur paye des matériaux scolaires. Les enfants aiment trop dépenser de l'argent aussi. Si leur papa n'en a pas, je prends, je leur donne. Vraiment, la culture a une grande importance. Parfois, on investit même dans les condiments.
Retour au studio, le débat se poursuit. Dites-moi, Madame Fatouma, qu'en pensez-vous de ce que vous venez d'écouter?
Effectivement, on sait que les femmes excellent beaucoup dans l'agriculture. Vous avez dit ça dans votre introduction, que le pourcentage des femmes, près de 80 à 90% des femmes qui travaillent la terre, mais malheureusement, leur travail n'est pas comptabilisé. Même dans les statistiques nationales, donc on ne retrouve pas vraiment le travail de la femme nigérienne. Et pourtant, ce sont des femmes qui travaillent. Et qui travaillent dur parce qu'elles ont les travaux ménagers et en plus, elles travaillent et dans le champ familial. Et à part ça, elles travaillent dans leur propre champ. Vous voyez, donc le triple rôle de la femme agricultrice nigérienne. Et pourtant, et nous, ce que nous demandons, elle a besoin vraiment d'un appui. Et parce que vous savez que les femmes, comme l'a dit Pauline, elles ne possèdent pas la terre. Donc tout ça, là, c'est un handicap pour elles. Elles veulent travailler, mais elles travaillent tout juste des petits lopins de terre. Donc, si elles ont la possibilité d'avoir des grandes surfaces, ça peut améliorer leur situation. Et donc, comme la politique foncière qui est en voie d'être reconnue par l'État, une fois que cette politique foncière a été adoptée par le gouvernement, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Toutes ces difficultés qu'on vient d'énumérer trouvent leur solution au niveau de cette politique foncière. Parce que l'accès de la femme va trouver sa solution. Le manque par exemple, de moyens financiers et puis de technologie, tout ça là a été pris en compte au niveau de cette politique foncière. C'est pourquoi nous demandons vraiment à ce que cette politique là soit adoptée pour pouvoir résoudre non seulement le problème des femmes, mais le problème de tous les paysans, de tous bords. Donc, cette politique a pensé à tout ça et donc ça peut apaiser, ça peut donner plus de modestie à la femme pour qu'elle soit à l'aise dans ce qu'elle est en train de faire et pour aussi booster la production. Non pas la production au niveau du travail de la femme, mais la production au niveau même des hommes. Donc, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériennes, vraiment va être une réalité si cette politique foncière a été adoptée. Parce que franchement, on a beaucoup réfléchi dans ce document pour que cette initiative-là soit une vraie politique et pour que des mesures d'accompagnement. Parce que l'initiative 3N, c'est une très bonne initiative, c'est une bonne idée de politique, mais il manque des mesures d'accompagnement qui peuvent booster la production. Parce que tout le problème se trouve là. Donc, avec cette politique foncière, effectivement, toutes les productions vont être boostées parce qu'on a pensé à tout.
Je continue avec vous, Madame Fatoumata. Je rappelle que vous êtes présidente du Collège des femmes au sein de la plateforme paysanne. Au Niger, la saison des pluies s'étend de juin à septembre, soit seulement 3 mois. L'accès à l'eau est donc un défi majeur pour les communautés agricoles. Y a-t-il un moyen pour ces femmes de continuer à cultiver le reste de l'année?
Oui, le seul moyen, c'est surtout ce qu'on appelle la culture de contre-saison. Au-delà de la saison pluvieuse, ben, les femmes continuent. On sait que toutes les femmes paysannes ne s'arrêtent pas à la culture pluviale. Au-delà de la culture pluviale, elles continuent la culture de contre-saison. Elles ont leur jardin, elles font le moringa, elles font les choux, elles font les carottes, elles font du gombo, elles font tout ce qui est légumes. Donc tout ce que vous voyez comme légumes, c'est le travail des femmes. Donc c'est pour vous dire que ces femmes-là, elles travaillent, mais la technologie leur manque, les moyens leur manquent, tout est archaïque, donc tout est manuel. Et c'est ça qui limite leur élan, c'est ça qui limite aussi le volume de leur production. Parce que si elles ont la technologie, si elles ont le terrain, elles sont là pour travailler. Donc, vous allez voir que les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est plus qu'une réalité. Les Nigériens vont nourrir au-delà du Niger. Mmh. Et ça, c'est grâce à, vraiment à la volonté et à la force de ces femmes qui sont vaillantes et qui continuent à travailler.
Alors, est-ce que ces femmes bénéficient d'un appui financier pour développer leur production de culture de contre-saison? Parce que on sait que pendant la saison pluvieuse, il y a l'eau et tout qui est là abondamment. Mais pendant les saisons où il n'y a pas l'eau, il faut chercher l'eau, il faut chercher là où les canaliser, des matériels d'arrosage et tout ça. Est-ce qu'elles bénéficient d'un appui?
Oui, pour ce qui est des femmes qui sont au sein du collège de femmes de la plateforme paysanne, donc nous avons fait des démarches, nous avons trouvé un partenaire qui est l'Europa. Et donc l'Europa a mis un projet et nous a demandé d'identifier des sites maraîchers où les femmes travaillent. Et on est en train de faire cette identification. Une fois qu'on a identifié ces sites-là, on va faire les clôtures. Mm-hmm. On va même leur faire des installations, des petits châteaux d'eau. Mm-hmm. Donc, tout le système d'arrosage, de goutte à goutte, et tout, et avec des bassins et, qui vont recueillir l'eau. C'est-à-dire que c'est pour faciliter le travail à ces femmes-là.
Est-ce qu'en ce moment, vous travaillez sur des plans pour assister ces femmes, quel que soit le temps? Genre, on sait que la saison pluvieuse, après, elles ont plus besoin d'aide à cause des problèmes, la sécheresse et le manque d'eau et tout ça. Est-ce que vous travaillez actuellement sur des plans pour les assister?
Et moi, je voudrais vous dire, ça ne fait pas encore 2 semaines. On était au niveau de RECA, le réseau des chambres de l'agriculture. Et justement, appuyer ces femmes, les femmes, c'est-à-dire les femmes transformatrices, les femmes qui sont dans l'agriculture, pour qu'elles puissent justement valoriser davantage leur activité. C'était avec Fissan, et puis le produit Fissan, et puis la Bagri, Reka et la CRA. C'est justement pour appuyer, pour qu'elles puissent vraiment travailler davantage, pour qu'elles puissent vraiment avoir les moyens pour pouvoir vraiment subvenir à tous ces besoins agricoles-là. Pour revenir un peu sur votre question, puisque ça va pratiquement dans le même sens, vous savez, pendant cette saison pluvieuse, c'est surtout le renforcement des capacités et le suivi. Quand j'ai dit le renforcement des capacités, c'est des formations, la sensibilisation et le suivi. Et là, actuellement, nous sommes toujours sur le terrain avec elle. Ce que j'appelle sur le terrain avec elle, les secrétaires permanents et les techniciens, et nous-mêmes, partons voir concrètement ce qui se passe pour ces cultures pluviales-là. Et c'est là, sur place, on leur donne des conseils. Et c'est là, pratiquement dans toute la région. On l'avait fait pendant la saison et avec les cultures de contre-saison, pour le maraîchage. Et maintenant, avec la saison des pluies aussi, c'est la même chose. Parce que dans des choses comme ça, pour vraiment les appuyer davantage, pour vraiment qu'elles puissent vraiment, comme on dit, avoir des bons rendements, il faut être à leur côté. Tous ceux qui ont des problèmes, ils peuvent nous interpeller directement. Ça, c'est avec RECA et la CRA, avec les CRA, toutes les CRA des 8 régions. On a ouvert, où on dit Amnara, ça veut dire que tout ce qui est ennemi de culture, et quand ça te vient là, dans ton champ, immédiatement, il faut contacter. Et sur place, on te donne aussi tout de suite comment il faudrait faire pour protéger ces cultures. Et en plus de cela, nous avons aussi sur le groupe WhatsApp, parce que c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Et il faut marcher avec. Et c'est, les réseaux sociaux sont partout, au village, partout. Et on arrive vraiment à communiquer avec eux. Parce que c'est la communication, en fait. Il faut communiquer avec ces femmes-là, pour qu'elles puissent vraiment, en tout cas, se dire, voilà ce qui se passe et voilà ce que nous pouvons faire tout de suite et maintenant.
Voilà. Alors, sachant qu'une partie est destinée à la consommation, est-ce qu'elles arrivent à vendre le reste de leur production pour assurer leur stabilité financière?
Vous voyez, l'écoulement aussi, souvent, ça pose problème. Quand je dis ça pose problème, généralement, dans les grandes villes comme Niamey, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Quand je dis il n'y a pas de problème, quand vous apportez sur le marché, souvent c'est pris.
Souvent, c'est au niveau même du jardin que c'est déjà pris. Mais au niveau du village, nous avons vu souvent des femmes qui font des cultures, par exemple, de la pomme de terre. Elles en ont en très grande quantité et souvent l'écoulement pose problème. Et c'est dans ces choses-là que nous intervenons, les organiser pour qu'elles puissent vraiment envoyer cette production au niveau de ces grands centres pour l'écoulement. Mais avec tout cela, comme je viens de vous le dire, ça pose problème parce qu'on n'arrive pas à couvrir tout cela. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Bien, nous sommes en train vraiment de chercher des solutions pour que ces femmes puissent vraiment écouler toute leur production. Parce que tout à l'heure, nous avons entendu dans les témoignages comment c'est elles qui prennent tout en charge, pratiquement dans la famille. Que ce soit pour le repas, que ce soit l'habillement, que ce soit pour la scolarité. Ce sont ces femmes-là qui prennent ça en charge. Et cela, dans l'agriculture, c'est-à-dire dans la production agricole. Donc c'est pour cela que vraiment, nous sommes en train de voir, par rapport à tout cela, comment prendre cela en charge, avec, en appuyant ces femmes-là, avec nos partenaires, pour qu'elles puissent vraiment subvenir à ces besoins agricoles.
Alors, est-ce que ces femmes ont accès à quelques outils technologiques pour mener à bien leur activité?
Justement, tout à l'heure, on en a parlé. C'est le temps aussi qu'il y a vraiment un gros, il faut dire vraiment des difficultés par rapport à cela. Les femmes n'ont pas les moyens. Souvent, elles en font, mais elles sont obligées de louer. Hein? Tu loues aujourd'hui une charrette, tu loues aujourd'hui une charrue. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de les amener à être eux-mêmes, à s'acquérir vraiment de ça et avoir vraiment ce pouvoir d'achat-là. Pour dire, je peux acheter ma charrue, je peux acheter mon tracteur. Parce qu'il est temps, vraiment. C'est elles qui sont vraiment les premières en liste. Vous l'avez dit, près de 90% de ces femmes-là sont dans la vie, sont impliquées. Et c'est elles qui représentent la même chose.
Merci beaucoup, Madame Pauline. Je reviens vers vous, Madame Hima Fatoumata. Dites-moi, quels sont vos moyens d'intervention?
Au niveau des femmes?
Oui.
Mais nos moyens d'intervention, c'est surtout la sensibilisation et la formation. Oui, et donc, nous sollicitons des partenaires pour des mini-projets à l'endroit de ces femmes-là. Donc, comme je vous l'ai dit, on a trouvé un partenaire qui nous demande d'identifier des sites qui appartiennent aux femmes, des sites maraîchers. Et sur ces sites-là, ils vont premièrement mettre la clôture, quelle que soit la superficie du site. Et ensuite, ils vont mettre le système d'arrosage, des systèmes modernes, des systèmes de goutte à goutte. Et parfois même, mettre des mini châteaux d'eau. Et mettre toutes ces installations, faire des bassins pour faire l'arrosage, pour pouvoir permettre à ces femmes-là d'avoir accès à la technologie, elles aussi. Donc, voilà comment on les aide. Et on les aide surtout dans la formation. De la formation et la sensibilisation.
Alors, selon vous, les femmes, celles qui sont en milieu rural, est-ce qu'elles arrivent à s'épanouir grâce à l'agriculture?
Oh, bien sûr, mais c'est leur moyen de survie. Et c'est l'agriculture qui leur produise le moyen financier. Parce qu'elles n'ont aucun moyen pour avoir de l'argent. Elles cultivent, elles travaillent, elles mettent un stock pour leur propre consommation et le surplus, il est revendu sur le marché. Donc, vous avez entendu tous les témoignages de ces femmes-là qui ont parlé. Ce sont ces femmes-là, à partir des produits de l'agriculture, elles supportent la scolarité des enfants, elles supportent l'habillement, elles supportent même les frais pour la santé. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses pour ces femmes-là. Parce que très souvent, les hommes, ils vont en exode. On laisse les femmes avec les enfants, elles sont obligées de se débrouiller comme elles peuvent à partir de leur production agricole.
Alors, merci. Sur ce, écoutons ce portrait de Madame Ousmane Rabi Maman, agricultrice dans la commune de Jiratawa, région de Maradi, et on revient juste après.
Madame Ousmane Rabi Maman Amani, née en 1976 à Tarné, mère de 6 enfants, 7 petits-enfants, agriculturiste, présidente d'Union Marhaba de Jiratawa, région des Maradi, là où elle s'est installée après son mariage. C'est en 2004-2005 que Madame Ousmane Rabi Maman s'est lancée dans le domaine de l'agriculture. Elle nous raconte sa passion.
Ça fait 15 ans que je pratique l'agriculture. Je fais la culture de contre-saison et la culture aussi en saison de pluie. Je me suis lancée dans l'agriculture parce que quand nos maris font leur récolte, c'est ces mêmes mille-là qu'on mange toute la saison jusqu'au-delà de 7 mois, alors qu'il y a les enfants et tout ça. Et maintenant, nous les femmes, nous avons compris beaucoup de choses. Et en plus, l'agriculture est source de richesses. Moi, avant, je n'avais pas de champ. Je louais avec les autres. J'ai commencé avec de la patate douce et ça a bien donné. J'en ai utilisé pour ma propre consommation et j'en ai vendu aussi. J'ai commencé avec une planche. Mais maintenant, je peux cultiver 20 planches et même plus. Je cultive du maïs, du blé, du moringa, de la patate douce parce que je n'ai pas qu'un seul champ. Je cultive du manioc, du chou, des oignons, du piment vert, de la pomme de terre, des aubergines, de l'arachide. Tout ça, c'est en culture de contre-saison. Avant, je ne plantais pas du haricot en culture de contre-saison. Mais cette année, j'ai tenté et ça a bien donné. Et c'est même pourquoi j'ai continué avec le haricot, même en saison de pluie. Pendant cette même saison toujours, je plante du maïs, du mil, du sorgho, de l'arachide et du sésame.
Madame Rabi Maman Amani ne s'est pas limitée à la culture seulement. Elle transforme certains des produits qu'elle cultive.
Je fais la transformation du moringa. Je le fais cuire, puis sécher. J'en fais de la farine aussi. Je fais de l'huile à base de moringa. Je fais du piment. Je fais du savon à boire avec du moringa. Je fais même des pâtes de moringa. Je fais de la farine de sorgho, de la farine de blé, la farine de manioc, mais je ne les vends pas ici. Je l'amène surtout à Niamey, à Zender et j'en vends aussi pendant mes voyages.
Selon Rabi Maman, les problèmes ne manquent pas, surtout du côté de la culture de contre-saison.
En matière de culture de contre-saison, nous rencontrons surtout des problèmes de manque d'engrais. Avant qu'on cultivait du blé, du maïs ou du sorgho, il y avait les partenaires qui pesaient, retiraient la redevance et l'argent de l'eau puis nous donner le reste. Mais maintenant, il n'y a plus ces partenaires-là qui sont là pour acheter après la récolte. Parce que franchement, si on avait des acheteurs, nous ne sommes pas des petits producteurs par ici. Hommes comme femmes.
Monsieur Omar Ibrahim, directeur des périmètres de Jiratawa, apprécie l'effort de Madame Rabi Maman dans l'agriculture.
C'est une femme que je connais, très engagée, puisque tout le temps elle est dans ce travail. Elle a beaucoup de connaissances en matière de transformation du moringa, son propre terrain sur lequel elle cultive, est d'environ 1,5 hectare. En plus de cela, elle travaille sur beaucoup d'autres périmètres. Et puis on l'invite pour former des gens sur la transformation du moringa. Elle était par exemple à Zender et à Agadez pour former ceux qui font la culture du moringa. Et durant tout le temps que nous avons passé ensemble au niveau du bureau, quand un projet demande une femme, c'est elle que nous proposons en tant que femme qui travaille la terre.
Aujourd'hui, Madame Ousmane Rabi Maman Amoni exploite plusieurs hectares à Jiratawa et forme aussi des femmes dans la culture et la transformation des produits agricoles.
Retour au studio, Madame Pauline, vous êtes avec nous.
Oui, je suis là.
Que pensez-vous de cette femme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers ce que vous avez écouté?
Ce que j'ai cru comprendre, c'est que Madame a vraiment une grande passion pour l'agriculture. Elle fait pratiquement beaucoup de cultures, de la pomme de terre, tout, et elle est pratiquement dans la chaîne de la culture, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'elle fait des cultures, ensuite elle fait la transformation, et puis elle vend. Je trouve que, à l'exemple de Madame Rabi, je pense, non?
Oui.
Elles sont nombreuses à travers le Niger, qui excelle justement dans l'agriculture et surtout dans la chaîne, c'est-à-dire de la culture jusqu'à la transformation. Elles sont dedans. Pour vous dire encore, la place, l'importance de la place de la femme dans l'agriculture. Regarde, la femme qui fait tout, hein? Elle qui prend soin, et c'est grâce à tout ce qu'elle a là qu'elle va encore prendre soin de sa famille, de sa belle famille, de sa propre famille. Vous voyez? Combien vraiment la place de la femme, de la place de la femme de l'agriculture, sur l'influence du territoire national. Les femmes travaillent. Leur seule difficulté, comme on le dit, c'est les moyens. Et maintenant, c'est vraiment à nous autres, en tant que responsables, et avec le ministère de l'Agriculture, comment nous allons tout faire pour vraiment mettre en place, en tout cas, des voies, des moyens, pour que ces femmes puissent vraiment avoir les moyens nécessaires pour pouvoir vraiment s'investir davantage dans l'agriculture. Elles ont non seulement la volonté et la capacité. Donc, ce qui fait défaut maintenant, c'est les moyens. Parce que quelle que soit ta bonne volonté, souvent, si tu n'as pas ces moyens-là, au niveau de l'agriculture, cela pose vraiment de grosses difficultés, en tout cas un grand problème.
Merci. Merci beaucoup. Et vous, Madame Fatoumata, que pensez-vous de ce que vous venez d'écouter?
Vraiment, vous savez, cette dame-là, Madame Rabhi, il y en a plusieurs Rabhi au Niger. Donc, j'ai mesuré vraiment la détermination de cette femme à varier, à embrasser une variété de cultures et à intervenir dans la chaîne de valeur. Donc, c'est pour vous dire que cette femme-là, elle a bénéficié peut-être de renforcement de capacité. Elle va de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Donc, franchement, je dis bravo à cette femme-là. Donc, vous voyez que même dans le domaine de l'agriculture, on peut devenir une businesswoman. Cette femme, elle est devenue une businesswoman. Et il y en a plusieurs. Donc, elles ont toujours besoin d'un appui pour pouvoir vraiment moderniser leur système de production, pour pouvoir avoir des moyens de transport qui peuvent leur faciliter le transport de leur production et pour pouvoir accéder au marché. Elles ne demandent pas plus que ça. Elles sont déterminées à travailler, mais elles ont un frein. Le frein, c'est quoi? C'est le manque de terrain à propre à elles. C'est le manque de technologie. Et c'est le manque de moyens de transport, c'est le manque d'accès au marché. Une fois que tous ces manques-là ont été résolus, mais la femme, elle est à l'aise. La femme paysanne, elle travaille. Elles sont là pour travailler. Donc, on demande surtout aux décideurs de leur apporter des appuis en formation et en technologie et de leur faciliter l'accès au marché. Vous voyez comment cette femme-là, elle est déterminée. Et il y en a des millions et des milliers de Rabhi au Niger, mais qui sont cachés. Donc, vous voyez, ce sont des businesswomen dans le domaine de l'agriculture. Et ça, c'est très important.
Merci. C'est ici que nous allons nous dire au revoir aux auditeurs et auditrices, ceux qui ont suivi avec nous ce débat. Vous avez entendu les problèmes et les difficultés que rencontrent ces femmes agricultrices à travers le Niger et les efforts que font les ONG et les partenaires et le ministère de tutelle pour apporter un soutien à ces femmes pour qu'elles puissent s'en sortir financièrement et qu'elles puissent aussi être stables et jouir de tous leurs efforts. Surtout avoir accès aux propriétés dont elles ont besoin pour pouvoir mener à bien leur activité. Le forum était axé sur la place de la femme dans l'agriculture nigérienne, les défis et les perspectives. Merci à vous, chers auditeurs. Merci encore de nous avoir écoutés sur les ondes de nos 47 radios partenaires à travers le Niger. Merci à vous, chers invités, pour votre participation. Nous étions en compagnie de Madame Pauline Draman, vice-présidente de la Chambre régionale de l'agriculture et directrice de Compost Niger. Et aussi, nous avons la présence de Madame Fatoumata Hima, présidente du Collège des femmes au sein de la plateforme paysanne du Niger. C'était Samira Rafi à la modération de ce forum et la technique a été assurée par Amina Hassan. Avant de nous dire au revoir, place maintenant à notre rubrique Affairage qui informe tout en humour. Bonne soirée.
Affairage.
Coco, il y a quelqu'un ici?
Oui, entrez.
Bonjour ma belle, ça va? Tu vas bien? Hey, c'est toi.
Bonjour, comment tu vas? Bismillah, prends place. J'ai fini d'écraser mes petits colas, je te reviens.
Sa fille, avec ses spécialités, écraser les petits colas pour faire quoi avec?
Hey, ma cocotte, tu n'es pas dans ces moines d'air. C'est un aphrodisiaque très efficace, ma belle. Le petit cola possède des vertus qui stimulent l'appétit sexuel chez la femme et surtout chez les hommes.
C'est vrai, sa fille. Le petit cola a des vertus reconnues en médecine traditionnelle africaine. Et j'aurais même appris qu'il contient des substances antiseptiques, antioxydants et anti-inflammatoires qui aident à soigner quelques maladies telles que la plaie du ventre, les plaies curables et tout. Il soulage les maladies bucco-dentaires, le cancer et rafraîchit la laine. Il soulage aussi les règles douloureuses, l'ulcère gastrique à cause de sa teneur en caféine qui dépasse même celle contenue dans le café. Et sans trop parler, ça soulage beaucoup des maladies.
Mashallah, c'est une bonne nouvelle ça. Tu vois, je ne connais pas tout cela.
Oui, sa fille, mais de la façon dont tu en consommes, on dirait une vraie spécialiste.
Kadi, je consomme à peu près 20 colas par jour. Ce n'est pas beaucoup.
Subhanallah, sa fille, son excès de consommation est très dangereux. Il est conseillé par les médecins de ne pas dépasser 2 noix de cola par jour. La plupart des personnes ne connaissent aucun effet secondaire. Mais si on en abuse, cela peut entraîner chez certaines personnes des problèmes digestifs et dans des cas rares, des maux d'estomac et des nausées. C'est aussi très dangereux pour une personne qui a des problèmes cardiaques et un hypertendu. C'est déconseillé de prendre le petit cola si vous êtes enceinte ou pendant l'allaitement.
Les 20 noix, là, je ne les consomme pas seul, hein, Kadi. J'y ajoute du gingembre et de coulou de girofle pour booster ma libido et celle du chef.
Ya salam, Safia.
Donc, si je comprends, tu veux me dire de ne plus le consommer?
Non, non. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'en abuser. Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Mais en cas de surdosage, vous aurez des effets secondaires comme brûlures et des maux d'estomac, des gaz et des ballonnements, des diarrhées, mais aussi des menstruations plus abondantes chez les femmes. Le clou de girofle est un aliment sûr, mais comme les aliments, mieux vaut éviter les excès.
Ok, je comprends maintenant. Je vais juste essayer d'en prendre en petite quantité.
Ce n'est pas une question d'essayer. Il faut que tu le fasses. Et tu dois en prendre en une quantité raisonnable. C'est tout. Mais toi, de préférence, comme tu en as trop consommé, fais une pause pour un certain temps, vraiment.
Tout d'accord, comme tu veux.
C'est pour ton bien. Sinon, si tu ne fais pas attention, ça va affecter tes reins et ça permettra à Aura de prendre une seconde épouse.
Subhanallah, une seconde épouse?
Donc arrête de faire la folle. Tu te rappelles ma cousine du même âge que moi là? Elle est toujours célibataire. Elle cherche désespérément un mari. À ce que je vois, ils formeront un joli couple avec Rachid, ton mari.
Qui Rukaya, pardon. Aie pitié de moi. Je ne peux pas supporter ta cousine là.
Fais attention en voulant arranger à ne pas tout gâter.